Vous écoutez
RMC. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 16 personnes en lien avec le périscolaire parisien, toujours en garde à vue ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs, interpellés hier pour des faits de nature et de gravité différentes. Un an après la promulgation de la loi trafic, le premier bilan des expulsions locatives des HLM pour les familles de dealers au nombre de 29, c'est une information RMC. Et les annonces de Sébastien Lecornu, grande conférence de presse à 17h sur l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient, avec de nouvelles aides à la clé.
Vaste coup de filet dans le périscolaire parisien.
16 personnes sont toujours entendues ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs. Elles sont en lien avec le périscolaire de 3 écoles parisiennes interpellées hier matin dans le cadre de plusieurs enquêtes distinctes. Bérangère Bocquillon, plusieurs enfants des élèves maternels de Saint-Dominique, de Rapp et de La Rochefoucauld ont décrit des agressions, des violences et des viols perpétrés par des animateurs de Saint-Dominique, épicentre du scandale.
Une trentaine de plaintes pour violences physiques, exhibitions sexuelles, agressions ou viols. Les 16 personnes qui sont entendues depuis hier ont entre 18 et 68 ans. Trois d'entre elles sont des responsables du périscolaire, trois autres des ASEM, ces agents en classe avec les enfants, et les 10 autres sont des animateurs. Marie a porté plainte pour le viol de sa fille contre un animateur de Saint-Dominique. Elle ne s'attendait pas à 16 gardes à vue.
Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes impliquées au sein de l'école.
Et elle attendait désespérément ces interpellations.
Un grand soulagement, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup. Ça fait presque 4 mois maintenant qu'on a déposé plainte et ça a été 4 longs mois à savoir que les agresseurs, les violeurs de notre fille étaient toujours en liberté, voire potentiellement qu'ils travaillaient toujours auprès d'enfants.
Les familles attendent également que la lumière soit faite sur toute la chaîne des responsables du périscolaire, l'administration et les élus de la ville de Paris.
Et ne manquez pas, juste après le journal de Thibaut Texer, la cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Évidemment qu'elle estime que c'est une étape importante, ces arrestations, mais elle considère, comme de très nombreux parents, qu'il faut immédiatement mettre en place des mesures d'urgence et que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui dans les écoles parisiennes.
Un chiffre, 29, c'est le nombre de dealers ou familles de dealers expulsés de leur logement en France. C'est une information que vous révèle RMC, qui a pu obtenir le premier bilan. Un an après la promulgation de la loi narcotrafic, l'une des dispositions de cette loi permet au préfet d'enjoindre les bailleurs à expulser l'occupant d'un logement s'il vend de la drogue, dégrade ou squatte un hall d'immeuble. 29 expulsions, Maxime Clieruza du service police-justice RMC, c'est un peu moins de 10% du nombre d'injonctions adressées aux bailleurs.
Oui, au total, 338 injonctions ont été adressées aux bailleurs depuis la mi-juin 2025, dont une majorité n'est pas encore passée entre les mains d'un juge. Parmi les 29 expulsions, celle d'une famille résidant à Gonesse dans le Val d'Oise. Elle a été expulsée il y a quelques jours de son logement qui servait d'appartement nourrice. De la drogue, des armes et de l'argent liquide étaient stockés sur les lieux. La préfecture indique qu'elle va maintenant attribuer le logement à une autre famille. De son côté, l'entourage du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se félicite de ces 29 logements libérés et parle d'un effet concret de cette loi. Selon nos informations, plusieurs dizaines d'autres procédures sont en cours et devraient conduire dans les prochaines semaines à de nouvelles expulsions de logements.
La pression s'accentue sur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. L'affaire prend une tournure politique et de nombreux élus emboîtent le pas à Benoît Payan. RMC vous le révélait hier, le maire de Marseille demande au chanteur de renoncer à son concert prévu en octobre prochain dans sa ville.
Vous écoutez RMC, il est 7h04.
506 euros, c'est ce qu'il manque aux Français pour vivre convenablement. Selon un sondage Elab pour BFM TV, ils sont 8 sur 10 à déclarer se serrer la ceinture, conséquence de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des coûts du carburant. Une crise qui va durer, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Il va dévoiler cet après-midi à 17h le nouveau paquet d'aides du gouvernement pour le mois de juin, à destination des secteurs qui n'en ont pas bénéficié à ce jour. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Le Premier ministre avait promis de changer d'échelle. Sébastien, à quoi faut-il s'attendre?
À des aides qui vont sans doute très fortement ressembler aux précédentes en réalité, avec l'idée d'élargir le nombre de bénéficiaires, mais tout en gardant le pied sur le frein. Ne vous attendez donc pas à une baisse généralisée des prix à la pompe, pas de baisse de taxes par exemple, mais à des mesures de soutien qui vont rester très ciblées, temporaires et qui continueront de viser les Français qui travaillent, avec l'idée, explique l'entourage du Premier ministre, d'étendre le dispositif à davantage de gros rouleurs, les soignants par exemple. On n'abandonnera personne, a promis le Premier ministre. L'idée d'inciter les entreprises à prendre leur part, à verser des primes par exemple, a aussi été étudiée. Et puis il y a les aides ciblées sur les secteurs les plus exposés. Ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui sont aidés continuent continueront de l'être au mois de juin. Les agriculteurs, les pêcheurs, le BTP par exemple, et d'autres vont devenir éligibles. On pense par exemple à l'industrie du plastique ou la chimie, touchée par l'inflation des matières premières. En réalité, il n'est pas question que de carburant. L'impact de cette crise sur l'économie est bien plus large et va exiger des décisions difficiles dans les mois qui viennent. C'est aussi le message que veut faire passer le Premier ministre cet après-midi.
Et n'hésitez pas, appelez-nous au 3216. Dites-nous si vous en attendez encore quelque chose de ces annonces, de ces aides que promet le Premier ministre. Vous êtes peut-être infirmier, infirmière, aide-soignante, aide à domicile ou gros rouleur. Est-ce que vos habitudes ont changé et de quoi vous auriez besoin? Faites aussi vos demandes au 3216.
Il y a tout de même des bonnes nouvelles. La France reste attractive. Elle continue d'attirer les investisseurs étrangers, en tête pour la 7e année de rang des pays européens. C'est ce que nous dit ce matin le baromètre EY, et même si, Victor Jeanin, le contexte international ne pousse pas forcément à l'optimisme.
Dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'intelligence artificielle notamment, la France séduit plus les investisseurs étrangers que ses voisins européens, grâce à la taille de son marché, le deuxième en Europe, ses centres de recherche, ses autoroutes ou encore son électricité nucléaire. Et il faut s'en réjouir, plaide l'auteur de l'étude, Marc Lhermitte.
C'est une bonne nouvelle, c'est une victoire de prestige. Et je peux vous dire qu'à Londres, à Berlin, on nous envie cette position. Arriver à attirer 852 investissements dans une année, c'est plus de 2 par jour. C'est une belle performance.
Reste que la France, comme ses voisins, subit le ralentissement de l'économie mondiale et la frilosité des grandes entreprises dans ce contexte incertain. Des entreprises qui préfèrent aussi temporiser à l'approche de la présidentielle, explique l'économiste.
Elles peuvent avoir une certaine retenue pour se dire « moi j'ai besoin d'un horizon de long terme, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans les... » 5 ans qui viennent et pas dans les 5 mois qui viennent.
Résultat, seulement 55% des entreprises étrangères interrogées comptent investir en France dans les 12 prochains mois. C'est 18 points de moins qu'il y a 2 ans.
La guerre au Moyen-Orient, Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid, toujours menaçant à l'encontre de Téhéran qui a reçu une nouvelle proposition américaine. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, tout peut aller très vite, dit le président américain, évoquant des pourparlers ne tenant qu'à un fil. Conséquence de cette guerre, la délocalisation de la Coupe du Monde e-sport. L'e-sport World Cup, organisé et financé par l'Arabie Saoudite depuis sa création en 2024, elle va finalement se tenir en France. Cet été, on parle là, Martin Bourdin, d'un événement XXL, rendez-vous incontournable pour les meilleurs gamers du monde.
Plus de 2000 joueurs venus du monde entier qui vont s'affronter tout l'été sur 24 jeux vidéo différents pour remporter des sommes records, près de 65 millions d'euros de récompenses cumulées distribuées aux vainqueurs. Et ce spectacle, il est scruté de très près partout sur la planète. 750 millions de personnes avaient suivi l'an dernier cette Coupe du Monde des clubs diffusée dans 140 pays. L'eSport World Cup, c'est une sorte de Jeux Olympiques du jeu vidéo professionnel aux yeux du sociologue de l'eSport, Nicolas Besson.
C'est vraiment un événement très mondialisé. Il y a à la fois des jeux très populaires en Europe, en Occident, comme Counter-Strike ou League of Legends, mais aussi des jeux qui sont très populaires en Asie. Il va y avoir des allées et venues de fans et de touristes. Paris étant une place assez centrale dans l'eSport, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a des gens qui, parce que ça va se passer à Paris, risquent de faire le déplacement pour venir à Paris.
Une compétition qu'Emmanuel Macron tenait à organiser, lui qui veut faire de la France une place forte de l'e-sport. Il a même reçu le patron de la compétition à l'Elysée avant-hier. On ne sait pas encore dans quel lieu se dérouleront précisément les compétitions, mais il faut un espace où on peut accueillir plusieurs milliers de personnes, glisse un membre de l'organisation.
Le sport sur un terrain de foot, victoire 3-0 d'Aston Villa en finale de Ligue Europa face à Fribourg, 5e titre dans la compétition. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal, les deux clubs se retrouveront en Ligue des Champions le 30 mai. Ousmane Dembélé assure qu'il en sera blessé face au PFC. L'attaquant est confiant, il le dit dans un entretien retrouvé sur RMC. Ce soir, le Ballon d'Or répond aux questions de Jérôme Rotten et Benoît Boutron dans Rotten sans flamme des 18h.